France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des odyssées animées ce samedi dans Plan large avec Momoko Seto et Zaven Nadjar et aussi Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Alors que deux films français et animés, Arco et Amélie et la métaphysique des tubes, figurent en très bonne place dans les 5 nommés aux Oscars pour le meilleur film d'animation, et que ceux produits par les studios hollywoodiens, autrefois les plus inventifs, Pixar en premier chef, se formatent et s'affadissent pour supposément complaire au marché, l'animation hexagonale ne cesse de produire des films d'une très grande originalité, sans doute parce qu'elle fait confiance à ses créateurs, à leur imaginaire et à leur audace, ce qui en fait un des derniers terrains d'expérimentation tournés vers le grand public. En témoignent cette semaine encore deux films hallucinés qui suivent dans une odyssée transnationale et même cosmique des personnages arrachés à leur terre de naissance. Les premiers sont, mais oui, des graines de pissenlit qui réussissent à échapper au cataclysme qui réduit à néant leur terre d'origine pour aller chercher sur une autre planète où faire leur trou et germer. Une planète qui ressemble beaucoup à la nôtre, par sa faune et sa flore, ne serait-ce son rythme différent. On va s'en expliquer. Le film s'appelle précisément Planète au pluriel. Il tient du documentaire naturaliste comme de la fable écologique, de l'épopée cosmique et du trip psychédélique. C'est le premier long métrage d'une cinéaste d'origine japonaise déjà repérée dans les milieux du cinéma expérimental ou scientifique. Elle s'appelle Momoko Seto et nous sommes ravis de la recevoir aujourd'hui dans Plan large. Face à elle, un primo cinéaste, là encore, même si nous avions déjà loué son travail ici, puisqu'il était le directeur artistique de La Sirène de Sepideh Farsi, c'est Zaven Nadjar, et c'est une autre odyssée qu'il nous conte sans phare, celle d'un enfant soldat et son périple tout aussi halluciné à travers Guinée, Côte d'Ivoire, Libéria et Sierra Leone et les guerres civiles qui les ravagent. Ça s'appelle Allah n'est pas obligé et c'est tout à fait stupéfiant. Pas moins halluciné le New York qu'avait filmé Bennett Miller dans son premier film en 1997. Film enfin visible sur grand écran, The Cruise, la croisière. Sandra Onana en assurera la visite guidée en fin d'émission. Mais pour l'heure, tout commence dans une prairie bucolique, pas pour longtemps. Bonjour Momoko Seto.
Bonjour.
Je ne sais pas ce que nos auditrices et auditeurs s'imaginent en entendant cette bande-son très riche. On peut leur dire que ça se passe dans une plaine herbeuse, très fournie, très bucolique, jusqu'à ce que... Alors, on croit d'abord que c'est des météorites. On comprend que c'est peut-être plutôt le même genre de missiles qui volent au-dessus du Proche-Orient actuellement, voire même des missiles nucléaires qui viennent embraser le paysage, les papillons s'enflamment, mais quelques graines de pissenlit parviennent à s'envoler et c'est le début de l'odyssée de ces akènes, comme on les appelle scientifiquement. Je me permets cette précision scientifique parce que vous travaillez au CNRS, donc je ne vais pas dire n'importe quoi. Vous y êtes ingénieur d'études réalisatrice, vous avez même été distingué par la très prestigieuse médaille de cristal du CNRS pour vos films. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ingénieure d'études réalisatrice, Momoko Seto ?
Alors, on n'est pas si nombreux en tant que réalisateur au CNRS, mais on en a quelques-uns. Et en fait, on est un support à la recherche. Donc, on travaille pour les chercheurs, pour filmer des choses qu'ils ont besoin. Alors, soit on peut faire aussi des entretiens, mais aussi des corpus vidéo ou cinématographiques qu'ils ont besoin pour travailler. Donc, voilà.
Alors, votre domaine, ce n'est pas tellement la biologie, comme on pourrait le croire en voyant votre film, ce sont plutôt les sciences humaines. Vous avez fait un portrait d'Edgar Morin, par exemple.
Oui. Alors, c'est vrai que souvent, on pense que je suis plutôt au muséum d'histoire naturelle, mais je suis plutôt à l'EHESS, École d'hautes études en sciences humaines et sociales. Et je travaille beaucoup avec donc, des sociologues, des anthropologues, des historiens. Et du coup, c'est plus compliqué, je veux dire, à filmer, puisque leurs objets de recherche n'est pas forcément visible. Donc ça rejoint un peu ma préoccupation cinématographique, c'est comment filmer l'invisible.
Donc vous filmez du langage en l'occurrence, je crois que vous participez aussi à un centre de recherche sur les arts et le langage, mais vous avez depuis de nombreuses années, depuis vos études aux Beaux-Arts et au Frénois, une activité parallèle de réalisatrice de films alors qu'on appelle expérimentaux, c'est notamment la série Planète, sans ES à la fin comme votre long métrage s'appelle. Qu'est-ce que vous avez expérimenté dedans qu'on retrouve dans ce film?
Oui, alors quand on dit cinéma expérimental, ça fait toujours un peu peur parce que les gens, ils ont peur de ne pas comprendre ou de s'ennuyer, par exemple. Moi, je dis que je fais plutôt du cinéma expérimental dans le sens où j'expérimente, j'essaye. Par exemple, de faire gonfler des cristaux de sel rapidement pour leur montrer comme un extraterrestre sur une planète. Voilà, donc j'essaye. mais on reconnaît absolument ce qu'on est en train de voir. C'est pas de l'abstrait. Depuis mes études au Frénois, j'ai essayé de capter des micros, des inframondes, comme on appelle. Donc, c'est des mondes à peu près invisibles, mais qu'on les voit quand même. Donc, on n'est pas non plus dans le microscopique. Donc, on les perçoit, mais on les perçoit surtout en utilisant des outils comme l'agrandissement, le macro, ou comme les techniques de time-lapse qui consistent à accélérer le temps. Donc, on a tous déjà vu des plantes qui poussent extrêmement vite ou des nuages qui passent vite. Ou sinon des caméras comme une caméra fantôme, donc qui permet de ralentir les mouvements des insectes qui bougent très très rapidement. Donc en s'équipant de ces outils-là, mon idée d'expérimentation, c'est de transformer ce qui nous entoure au quotidien, donc ça peut être des limaces, des abeilles, des pissenlits, à une autre chose qui peut être un personnage de science-fiction.
C'est ce qui est effectivement très troublant quand on voit votre film, c'est que c'est la nature en majesté qu'on voit vivre comme on ne l'a jamais vue. Alors soit en la ralentissant extrêmement, soit en l'accélérant extrêmement, sauf que tout ça mobilise une technologie extraordinaire. Alors comment est-ce que vous jouez de cette tension entre ce que vous voulez capter de plus fragile presque et tout cet appareillage gigantesque? Je ne sais pas combien de temps ça vous a pris pour faire ce film, mais j'imagine pas mal de temps.
On a, comme Darwin, observé les plantes pousser. Nous aussi, on a un peu observé les plantes pousser pendant 2 ans et demi. Le tournage s'est étalé sur 260 jours avec différents écosystèmes dans la forêt, près de l'eau, près de la mer, dans des aquariums ou en Bourgogne avec plein de maquettes différentes, avec plein de plantes différentes qu'on a travaillé avec des botanistes. Et en fait, ce que je trouvais incroyable, c'est qu'on avait des robots, des machines, plein d'appareils photos pour filmer une petite fleur de pissenlit qui s'ouvre devant la caméra pour la rendre comme une star. Et donc, je trouvais incroyable que la science-fiction que je propose et les science-fiction derrière la caméra, en fait. Tout ce qu'on voit devant, on n'a ni fusée, ni robot, drone qui va exploser tout. Mais tout ça est derrière nous. Et donc, c'est un peu un science-fiction à l'envers. Et je dis souvent que ce n'est pas vraiment de la science-fiction, c'est de la fiction. Science, c'est de la fiction, ce qu'on voit. On va voir des vrais tétards, on va voir des vraies limaces. Mais de façon fictionnée, les tétards, ils vont voler. Les limaces vont être aussi grands qu'un cheval. Mais c'est de la fiction. Mais en utilisant des techniques de la science, comme les macros, des outils, des robots qu'on invente.
Toutes les plantes sont réelles.
Sandra Onana, on ne vous a pas entendu.
Oui, pardon. Toutes les plantes sont réelles, du coup, parce qu'on dirait des espèces extraterrestres, les plantes qu'on voit à l'écran.
Toutes les plantes sont réelles, tous les insectes sont réels, tous les sols, tout ce que vous voyez, c'est du réel. Mais en plus, on n'a pas du tout dénaturé leurs couleurs en étalonnage. On ne voulait pas saturer. Justement, je dis, il faut garder les couleurs telles qu'elles sont, parce que c'est incroyable. C'est d'une nuance folle. Et tout est vrai. Et c'est ça qui est fou, c'est que avec juste de mouvements ou les rendre animés, c'est-à-dire quand on parle de l'animation dans cette émission, grâce à ces techniques, on les rend vie à une plante qu'on pensait fixe. Donc c'est vraiment de l'animation, de rendre l'âme, et puis les mouvements de caméra comme si on était des graines de pissenlit qui rentraient dans ces écosystèmes.
Alors la fiction, vous l'avez dit, c'est un film de fiction très ancré dans le réel et la nature. Zaven Nadjar, on va parler dans un instant avec vous de Alain n'est pas obligé, mais vous l'avez vu, ces planètes. Qu'est-ce que ça vous a raconté?
Moi, ça m'a beaucoup touché, en fait, ce voyage de ce groupe de pissenlits. Et en même temps, ça m'a posé beaucoup de questions justement sur comment est-ce que tu as recréé en fait tous ces mondes à partir de plantes très réelles, mais en même temps beaucoup d'inventivité de recréer comme des nouvelles planètes. Et moi, c'est là que ça m'a beaucoup fait penser à de la science-fiction. C'est basé beaucoup sur... on est avec de la nature qui est autour de nous, mais comme recréée avec et sublimée avec ces paysages, etc. Et ce parcours, il m'a émerveillé pour ça. Donc moi, si j'ai une question, c'est plus comment est-ce que ces paysages se sont construits pour recréer en fait ces planètes?
Oui, merci. Alors, beaucoup de paysages qu'on ne connaît pas, parce que je me suis inspirée à des paysages comme de Triton, qui est une lune de Neptune, ou aussi des paysages de Neptune que j'ai pu regarder des illustrations qui ont été faites à partir des données scientifiques. Donc, on ne peut pas voir ce qui se passe sur Neptune, mais on a des données, et à partir de là, il y a eu des illustrations, des imaginations. Et c'est comme Neptune, par exemple, c'est une planète complètement congelée, avec des geysers verticaux qui se plient au bout d'un moment, parce que c'est pas le même atmosphère. Et donc, on a des paysages complètement incroyables. Et en fait, quand ces graines de pissenlit arrivent sur cette planète, elle est congelée. Donc, il y avait ce point de commun avec Neptune, mais aussi la Terre, il y a des milliards d'années, était congelée. Et donc, je me suis dit, tiens, comment on peut dessiner ce monde où on n'a pas la même température, on n'a pas la même atmosphère, de jouer avec ça. Et en effet, j'étais aussi allée consulter un astrophysicien pour travailler les différentes températures et constituants atmosphériques. Parce que quand on a beaucoup de CO2, comme sur Mars, c'est pas la même couleur du ciel que quand on a moins de CO2 comme sur Terre. Et en fait, je m'étais dit, mais si les plantes arrivent et ils éjectent de l'oxygène, on n'a pas la même couleur de paysage du ciel. Et donc tout ça, j'aimais beaucoup travailler avec des astrophysiciens, parce que je trouvais que ça me donnait plein d'idées, du coup, à des formes de nuages, à des formes de montagnes, de fumée, de la pluie qui va être constituée différemment.
Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur une planète glacée? Eh bien, on fait du patin à glace.
Thank you.
Et voilà donc nos quatre graines de pissenlit qui font du patin à glace sur une surface gelée. Alors tout est vrai, sauf les graines de pissenlit, qui elles sont, pour le coup, on est vraiment dans l'animation, sont des personnages 3D et sont même des personnalités, parce que, comme le disait Sandra Onana pendant que l'extrait passait, et ils sont coiffés différemment avec, avec les petits poils là, qui leur servent à voler. Ils ont un peu des corps différents. Il y a l'aventurier, il y a le rêveur, il y a le craintif, il y a le bougon. Alors, comment est-ce que vous avez imaginé ces personnages qui ont quand même énormément de personnalité, transmettent beaucoup d'émotions, alors qu'ils n'ont pas d'yeux, ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas de membres dans lesquels on pourrait reconnaître une émotion?
Oui. C'était un énorme challenge justement de que les spectateurs s'identifient à des graines de pissenlit. C'est quand même, je crois que ça, on peut dire que ça n'a jamais été fait en cinéma, qu'on s'est identifié aux graines de pissenlit aussi longtemps à l'écran. Beaucoup avec Alain Lérac, mon co-scénariste, donc avec qui on a mis 3 ans à écrire, à donner l'émotion des personnalités à ces graines, commençant par les donner des prénoms. Donc ils ont chacun un prénom qu'on n'entendra pas dans le film, mais qu'on le sent dans leur personnalité.
On peut les donner, ces prénoms.
Alors, le grand frère, un peu, mais alors en fait, il est trop grand que les autres, donc c'est un peu un géant. Il s'appelle Dandelion, comme Dandelion en anglais. Celui qui est un peu rêveur, qui est courbé, qui suit un peu tout le monde, il s'appelle Taraxa, comme Taraxacum, le genre de pissenlit. Le gros qui bouge, qui essaie de s'implanter un peu partout, qui est un peu instinctif, il s'appelle Baraban, comme à Saint-Étienne, on appelle les pissenlits Baraban. Et celui qui perd les cheveux, qui a peur, qui est craintif, qui est toujours derrière tout le monde, il s'appelle Léonto. C'est aussi une forme de nomination de pissenlit.
Et alors, pour les animés, vous avez travaillé avec des acteurs, des danseurs, des circassiens. Et alors, on m'a raconté que vous leur avez attaché les mains, les
jambes,
les pieds, pour trouver d'autres manières, précisément, de transmettre une émotion.
Exactement. C'était extrêmement drôle, cette session.
On veut voir le making-of.
Oui. En fait, j'avais embauché donc 2 actrices et 1 acteur qui font voilà, à la fois des mimes, aussi de la danse, du théâtre. Et je leur ai dit, voilà, toi, t'étais le personnage. Et en fait, je voulais savoir déjà les psychologies de chacun. Voilà, là, on vient de rencontrer une mante religieuse. On a eu peur. Donc, la scène d'après, peut-être cet Aken, il est un peu plus derrière les autres parce qu'il n'a plus envie de avoir de traumatisme. Donc, faire des couches comme ça sur la psychologie de personnage. Et aussi, comment faire un hug en groupe, sans bras. ou comment se déplacer quand on vient de perdre un copain et qu'on ne se déplace pas de la même manière chacun, donc chacun a ses façons de marcher. Donc toutes ces choses-là, j'ai demandé en attachant un peu les bras et les jambes.
Alors, tout film est d'une manière ou une autre autobiographique, je le pense. Je voulais savoir à quel point cette histoire résonne avec la vôtre, puisque c'est quand même l'histoire de petites graines qui cherchent un endroit favorable où germer.
Oui. Alors, c'est vrai que quand j'écris un film, je ne veux pas me mettre le moins possible dans le film. Et bien sûr, c'est une histoire donc, des graines de pissenlit qui s'en vont de la terre détruite par l'humain. Mais en tout cas, ils sont expulsés de chez eux. Ils essaient de trouver leur nouveau sol, leur nouvelle maison, leur nouveau chez eux. Et moi, ça me faisait aussi à la fois écho à ma vie, parce que je suis japonaise. Je ne suis pas d'origine, je suis vraiment née au Japon et j'ai vécu 20 ans à Tokyo et je suis venue en France pour faire mes études. Après, je suis partie aussi un moment en Californie pour continuer mes études, tout ça. Donc, on voyage tous. Hein, et, je pense qu'en 2026, il y a énormément de gens qui ont quitté leur terre, parfois par la guerre, malheureusement, ou parfois par d'autres raisons. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, à un moment, la personne qui s'est déplacée décide de s'implanter là, de dire je pose ma valise et je me dis je vais rester ici. Et c'est quoi toutes ces raisons-là? Et cette raison, elle est extrêmement individuelle. Tout le monde a ses différentes raisons. Ça peut être l'amour, ça peut être le travail, ça peut être le climat, ça peut être la nourriture. Et on a toutes ces choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi quand est-ce qu'on décide, c'est notre oasis ici.
Et puis, il y a quelque chose de foncièrement japonais, il me semble, dans votre manière d'envisager la nature, parce qu'il n'y a pas que les graines de pissenlit qui ont une personnalité, puis finalement, toutes les plantes, même les roches que vous filmez, en ont une, les animaux. Évidemment, vous avez emporté votre conception de l'animisme japonais avec vous, quand vous êtes parti.
Je crois et j'espère. Je pense que la diversité de pensée est importante. En France, on pense pas du tout comme ça, c'est-à-dire limite un chien reste un chien, alors ne parlons même pas de pierres ou des plantes, parce que voilà, ils ont même pas de yeux. Au Japon, moi je grandis vraiment dans un environnement où tout était, même les objets avaient une importance, que ça soit dans l'histoire, très facilement les objets qu'on hérite, traditionnellement cette tasse de thé va être une autre tasse de thé, parce qu'elle vient de mon arrière-grand-mère, que j'ai vue, j'ai rencontrée, etc. Donc, même les objets ont une âme, et quand on casse un objet important, on peut aller aussi au temple pour faire, qu'on appelle le kujo, de faire une purification de cet objet, pour que cet objet se repose en paix. Donc, il y a un autre rapport aux choses, pas que à la nature, mais aussi à la nature, où au Japon, on est quand même extrêmement dépendant de tous les intempéries, commençant par le tremblement de terre, le tsunami, les typhons. Enfin, on a tout le temps, on dépend de ça. Et surtout, quand on filmait Planète, et j'habitais 2 mois sur l'île de Yakushima, donc c'est au sud du Japon, pour filmer certains faunes et flores qui se trouvaient que là-bas. En plus, c'est sur une île. Donc, j'ai vu comment la météo était impacter toute la vie de l'île. C'est-à-dire, il pleut 3 jours, le bateau n'arrive plus, le supermarché se déserte. Du coup, on fait des potagers chez nous, où l'école s'arrête, le bus ne part plus. Enfin, quand il y a une tempête, il y a vraiment une tempête, on ne peut pas sortir. Et je me dis, il y a quand même une subordination par rapport à la nature, c'est-à-dire que l'humain est toujours en dépendance de la nature, de la météo, de la température, tout ça. Ça fait partie, c'est pas que des plantes. Et donc, cette horizontalité des vivants, je trouve qu'en Europe, on a un peu plus perdu. On est plus dans une vision pyramidale, c'est-à-dire l'humain est tout en haut et il y a des autres vivants en bas. Et du coup, ce qui est important aussi dans ce film, c'est de montrer cette horizontalité, par commençant par supprimer l'humain. Comme ça, c'est plus facile à comprendre.
Et l'âme chez vous, ça passe beaucoup par le son. Formidable travail de design sonore de Nicolas Becker et Quentin Sirjac à la musique. Qu'est-ce que vous leur avez demandé ? Parce que même les graines de pissenlit font des petits... ont leur propre langage inarticulé.
Oui, alors c'était un grand challenge pour eux. Nicolas Becker, je me souviens, en tout début de projet, il m'a dit « Mais tu sais, ton film, c'est un rêve pour nous. » Puisqu'il y a tout à inventer. On a 0 prise de son direct, on n'a pas de dialogue. Il faut inventer comment sonne une graine de pissenlit. Comment sonnent des graines de pissenlit qui sont contents ? Ou comment sonnent des graines de pissenlit qui sont tristes ? Comment sonnent des limaces qui ressemblent à un cheval ? Voilà, comment sonne une pleurote qui pousse comme un baobab ? Donc tous ces sons-là, et il ne s'agit pas de mettre un son n'importe comment, puisqu'il faut qu'on les repère, on les comprenne. Et en fait, c'était toujours cette décalage de l'image, c'est-à-dire Nicolas me demandait toujours qu'est-ce qu'on voit maintenant. On voit, qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Ah, on est en train de voir, c'est pas un oursin qu'on est en train de voir, mais c'est un Big Bang. Donc il a enlevé le son de l'eau qu'il avait commencé à mettre, mais il a mis le son d'astres, de géologie, des roches, pour que quand il y a un oursin qui arrive, ça montre une explosion de Big Bang avec la création de l'univers. Donc à chaque fois, c'était qu'est-ce qu'on voit ? Et ce décalage entre l'optique qui montre déjà autrement et le son qui nous déplace encore plus l'objet qu'on est en train de voir par une autre conception de vivant, pour pouvoir voir autre chose. Mais c'était un travail incroyable qu'ils ont fait.
Et voilà l'Oasis dont vous parliez tout à l'heure, musique signée Quentin Sirjac. Merci beaucoup, Momoko Seto. Il faudra attendre mercredi prochain pour découvrir Planète sur grand écran. Vous écoutez France Culture, Plan Large. Vous restez avec nous, Momoko Seto, pour une autre odyssée sur les routes et chemins ouest-africains, cette fois avec, pour commencer, une petite précision sur le contexte géopolitique de cette histoire.
Oh. raconter ma vie de merde, de bordel de vie, dans un palais approximatif, ne pas me mélanger les pédales dans les gros mots. Je possède 4 dictionnaires. Le Liberia, ça avait toujours marché à 2 vitesses. Tout le pouvoir était aux settlers, les anciens esclaves américains et leurs descendants. Un jour, le lieutenant Samuel Doe en a eu marre d'être exploité. Le 12 avril 1980, son coup d'État a fait de lui le premier président crâne. La République du Liberia était un État crâne, totalement crâne. Le soir de Noël 1989, tout a basculé. Charles Taylor lance la guerre civile. À partir de là, il y avait au Liberia 4 bandits de grand chemin. Charles Taylor, Samuel Doe, Prince Johnson, El Hadji Corama et d'autres fréquents de petits bandits. Ça voulait dire qu'ils s'étaient tout partagé dans le pays. Et c'est au Liberia où j'allais. C'est là où vivait ma tante Man. Yakuba, Yakuba, c'est trop long ce voyage. Faut que tu trouves un raccourci.
Petit frère, je maîtrise mes gris-gris, pas la téléportation.
C'est qui eux?
Eux là, eux, c'est des vrais soldats. Ils sont là pour nous protéger.
Voilà, petit moment pédagogique dans votre film Zaven Nadjar. Allah n'est pas obligé avant que notre héros ne tombe dans une embuscade sur la route. Pas inutile ces petites précisions, parce que le conflit au Liberia, on en parlait beaucoup à une époque, mais il est d'une grande, grande complexité. Comment est-ce que vous avez pensé ces moments où vous informez le spectateur sans le perdre, ni dans les explications, ni dans le récit, Zaven Nadjar?
En fait, c'était pour moi extrêmement important parce qu'ils sont très présents dans l'œuvre de Amadou Kourouma.
Vous avez adapté le roman.
Donc j'ai adapté le roman. Et quelque part, l'histoire de Biraïma, elle est éclairante sur les mécanismes qui créent et entretiennent ce type de conflit. Et donc, il fallait trouver un moyen de faire exister ces moments qui sont beaucoup plus longs dans le roman, comme dans le film, des petites portes d'entrée pour plus de recherche. Et comme Miriam, il utilise pour raconter son histoire des dictionnaires, j'ai pensé que l'un de ces dictionnaires pourrait être une forme d'encyclopédie et pourrait être le support de ces séquences. Et là, la séquence que vous avez passée, c'est un peu une introduction finalement au contexte. Et ensuite, le film est jalonné de petites séquences comme ça qui décryptent justement la prédation sur les matières premières et comment justement ces enjeux des matières premières qu'on raconte à travers les diamants, mais qui est plus large, il a été crucial dans ces deux conflits. Et il l'est souvent, que ce soit les diamants ou le pétrole, finalement, c'est le même enjeu et la même prédation.
Mais vous devez articuler dans le film justement cette parole un peu sachante qui prend de la hauteur avec le point de vue d'un enfant, puisque tout est vécu quand même à son niveau, de ce qu'il va découvrir, appréhender, comprendre et même imaginer de tout ce qu'il traverse.
Oui, absolument. C'est un film qui est vraiment à la fin. C'est un roman, c'est un enfant, Biraïma, qui nous raconte et qui a cette parole d'enfant, mais qui finalement donne des leçons aux grands, et c'est ça qui est extrêmement fort, la clairvoyance.
Alors, on avait parlé, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, d'un film dont vous assuriez la direction artistique et qui ressemble d'ailleurs dans les images qu'on peut voir, qui était La sirène de Sépi Desfarsi, qui racontait la guerre Iran-Irak vue d'une petite ville iranienne bombardée par les Irakiens. Alors, on parlait des missiles tout à l'heure, on est à nouveau en plein dans ce qui se passe aujourd'hui. Et vous vous posiez manifestement déjà la question dans ce film, et c'est évidemment particulièrement le cas ici, c'est comment représenter la guerre ? Comment représenter la violence sans en faire spectacle d'un côté, sans l'édulcorer non plus, parce que dans votre film, quand on se prend une balle, ça fait des dégâts, on n'a pas la pudeur de ne pas la montrer. tout en s'adressant à un public, alors le film, je crois, est à voir à partir de 12 ans, donc c'est plutôt un public de jeunes adolescents à qui vous vous adressez, mais vous devez vous poser en permanence la question, qu'est-ce que je peux montrer, comment le montrer ?
Ouais, je pense que déjà, j'ai dans mes films parlé de ces sujets, parce que moi, ma famille, c'est des Arméniens de Syrie et du Liban, et dans ma famille, il y a des histoires de guerre et de guerre civile. Et c'est ce que j'ai raconté notamment dans mon court-métrage Un obus partout, et c'est ce qui fait que j'ai rencontré Sepi Defarsi et qu'on a travaillé ensemble sur La Sirène, et que j'ai rencontré Sébastien Onomo,
le producteur de
La Sirène et de Alain n'est pas obligé, et qu'on a travaillé sur cette adaptation. Et c'est sûr que c'est une question que je me posais sans cesse, à la fois de représenter ce qu'était ce conflit et finalement le roman raconte frontalement ce qu'était la violence de ces conflits. Et en même temps, je voulais surtout pas que la violence dans le film soit ni gratuite ni spectaculaire. Donc quand elle a du sens dans l'histoire, à ce moment-là, elle est présente, mais elle n'est pas non plus magnifiée. Elle peut être assez brutale, mais sans enfage, on va dire. Et voilà, donc c'était un peu la manière dont j'ai pensé les choses. Et finalement, le style graphique du film est aussi assez simple, finalement, visuellement, en termes de design, de couleurs, de traits. Et je pense que c'était aussi un moyen de créer un filtre avec cette violence sans l'atténuer, sans la minimiser, plutôt. Mais tout en donnant les moyens de raconter cette histoire sans que la violence soit spectaculaire, on va dire.
Et cette tension, elle se matérialise par un ton assez étonnant de ce film, qui est souvent léger, blagueur, ironique, très gouailleur, très, très truculent, qui rend évidemment les éruptions dramatiques encore plus violentes à ressentir pour le spectateur.
En fait, c'est vraiment ce qui nous a réunis, Sébastien Onomo et moi, pour faire cette adaptation. Parce que, comme je vous le disais, moi, quand j'étais adolescent, j'allais visiter ma famille. Et ça, j'ai le cœur gros de dire ça, en fait, maintenant, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, en fait. Mais j'allais voir ma famille au Liban. Et mes grands-cousins qui ont fait la guerre civile libanaise, les moments où ils en parlaient, et oui, moi, me racontait des choses, c'était à travers des blagues, et en fait, à travers un ton qui n'est pas très différent, en fait, à travers des choses qui pourraient... On croise quelqu'un, il y a une histoire hyper légère, où on se moque de quelque chose, et tout d'un coup, ça devient dramatique, et en même temps, ça nous apprend quelque chose. Enfin, moi, ça m'apprenait des choses sur l'histoire et sur le contexte de l'époque. Et donc, forcément, le ton de Berahima, moi, il m'a bouleversé. Et à l'époque, Sébastien, depuis ses études, rêvait d'adapter ce roman. Lui, il est franco-camerounais, il lançait sa société de production Special Touch Studio, qui fait principalement des films sur le continent africain. Et en fait, on s'est réunis, on était bouleversés par ce roman, on s'est réunis, et voilà, on a commencé à travailler sur l'adaptation.
Alors, il y a une image qui synthétise un peu cette tension entre la violence et la tendresse, et ce mot impossible en soi, qui est enfant soldat, avec le ouais. tiré au milieu, c'est ce doudou. C'est une petite tête de panda qui, au début, pendouillait sur le sac à dos, le petit sac à dos de votre Berahima, et qui finira sur sa Kalachnikov.
Ouais, c'est. Disons, quand je créais le personnage, je voulais avoir quelque chose qui, je pense, en animation, peut donner corps au personnage et raconter vraiment l'enjeu. Et donc, ce petit panda, il racontait vraiment ce que c'est d'être un enfant et d'être tout d'un coup pris dans cette tornade de la guerre et d'être utilisé dans la guerre. Et quelque part aussi, je voulais vraiment que ce soit un objet manufacturé qui vient de l'extérieur. C'est pas quelque chose que quelqu'un a fabriqué ou quoi que ce soit, ou que lui aurait fabriqué ou même dessiné. C'est vraiment un objet manufacturé de l'extérieur qui n'a rien à voir, mais qui est mignon pour autant, qui symbolise l'enfance et qui met sur son fusil. Et je pensais... en fait, j'ai pensé ça aussi comme dans certains conflits, par exemple, les soldats ou les miliciens, ils vont coller des icônes ou ils vont coller des choses qui, pour eux, a du sens dans le contexte. Donc finalement, ça venait de ça, parce que moi, je fais toujours beaucoup de recherches quand je fais un projet. Là, pour ce film, j'ai travaillé au Liberia avec des anciens combattants, etc. Mais j'avais aussi en tête, voilà, j'essaie toujours de partir de quelque chose qui est attaché au réel. Et même là, pour ce panda, quelque part, c'est profondément attaché au réel, même si ça paraît le symbole est évident en soi, mais il y a quand même un lien, quoi.
Oh, tu fais quoi là? C'est à moi maintenant. Tu es mort de mes crevettes. On dirait un crâne. On doit le tuer.
Hé, hey, on a tout quoi là? Tuons-le maintenant.
Moi, je veux devenir un enfant soldat, comme vous.
Hein? Ici, on n'aime pas les crânes ou les guerriers. C'est nos ennemis jurés, ça. Quand on trouve, on les torture, puis on les tue.
C'est les règles de la guerre.
Je ne suis pas un crâne, je viens de Togobala. Je suis un bon musulman, comme ma mère, ma grand-mère et les autres villageois.
Maintenant, il nous raconte sa vie. Tu penses que ça nous intéresse? Oh, le petit, il est trop bizarre.
C'est comme ça que j'ai rencontré mes amis. Le commandant Redhead, moi je l'appelle commandant tête brûlée.
Allez, lève-toi, bouge. Oh,
tu me saoules là. Smart kick ou kick le malin, Sarah et Fatih. Fafro.
Arrête de pleurer. Fais comme eux. Tu te bats, t'es fort. Tu pleures pas.
Moment de bascule où Biraïma, plutôt que d'être le prisonnier d'un groupe d'enfants soldats, va vouloir en devenir un lui-même. Comment est-ce qu'on rend crédible un basculement psychologique pareil? Est-ce que vos entretiens, précisément, avec des anciens combattants, je ne sais pas si vous avez rencontré aussi d'anciens enfants soldats, vous ont aidé à comprendre, au-delà du livre que vous avez adapté, ce qui pouvait se passer dans la tête d'un enfant qui devient enfant soldat?
Oui, oui, c'est vraiment comme ça que j'ai travaillé, en fait. Au départ, j'ai contacté plein de personnes, toutes les personnes que je pouvais contacter, et je suis rentré en contact avec un ancien général Sierra Leone, Mohamed Tahawali, et je pense au départ le rencontrer une heure à Monrovia, il vit au Liberia maintenant, donc à Monrovia, et finalement, je lui envoie des dessins, des choses et tout, et il me dit « Ok, ça me parle, ton projet, si tu veux, je peux te guider et tout ça. » Et par lui, je rencontre beaucoup d'anciens combattants, certains qui ont été enfants soldats ou en tout cas adolescents soldats quand ils étaient très jeunes, adolescents. Et surtout, en fait, des personnes qui ont été gradées et qui disent comment... J'entendais aussi beaucoup d'interviews de comment ces jeunes enfants ou adolescents étaient embrigadés. Et là, dans le film, c'est ce personnage de Yakuba qui est interprété par Thomas Djijol qui lui... Comme lui décrit ça comme une opportunité, ou en tout cas, il sera un grand commandant, il aura tout ce qu'il veut, etc. Donc, à ce moment-là du film, Biraïma, il ne se rend pas compte réellement de ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il fait référence à sa famille à Togobala et tout ça, des gens du quotidien. Mais là, ce qui était intéressant dans les entretiens, justement, et dans la manière dont Mohamed Tahawali et moi, on a aussi passé au laser le scénario après coup, c'était le personnage de Tête Brûlée, qui est le commandant, en fait, qu'on entend, qui dit...
Qui doit avoir deux ans de plus que lui, quoi.
Ouais, mais lui, c'est un commandant. Et donc, à ce moment-là, quand il voit Biraïma, il voit qu'il ne se laisse pas faire, parce que là, ils sont juste en train d'essayer de le terrifier. Mais lui, il a peur. Et évidemment, et tout le monde aurait peur à sa place, mais malgré tout, il répond. Et donc, là, directement, quand on passait au laser le scénario, Mohamed, il m'a dit, là, ton commandant, il se dit, avec ce gamin, on peut faire quelque chose. Et lui, c'est son rôle en tant que commandant. Et donc, c'est tout son état d'esprit qui est posé comme ça. Donc voilà, c'était tout ce travail-là, justement, pour faire exister ces personnages, il venait de ces entretiens.
Momoko Seto, on est loin de vos limaces et de vos graines de pissenlit, quoique vous avez vu « Alain n'est pas obligé ».
Oui, bien sûr, je l'ai vu au Festival d'Annecy, qui était dans la grande salle. Ce qui m'a frappé, il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce film, la première chose, c'est l'histoire de migration, parce que c'est un thème qui m'est cher aussi, et que ces personnages migrent d'un pays à l'autre, donc expulsés, cette fois-ci, par la guerre. Hein, c'est pas comme mon histoire personnelle. Mais en tout cas, ils migrent. Et quand moi, je travaille sur les migrations des plantes, il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Emmanuel Ecotia qui disait « Tout vivant migre ». Les plantes migrent, les animaux migrent. Et limite, si on ne migre pas, on meurt. Et quand j'ai vu le film, Alain n'est pas obligé, je me suis dit, si eux, ils ne se déplacent pas, ils meurent ici. Donc j'ai vraiment senti cette histoire de migration des vivants à travers cette histoire. Et c'était quelque chose d'extrêmement fort. Et ce qui rejoint aussi peut-être Planète, c'est cette solidarité qu'il y a aussi. Parce que migrer, ok, il faut migrer, parce que sinon on meurt, mais migrer a besoin de l'autre. Souvent, quand on migre, on a besoin de quelqu'un. On a besoin d'être solidaire pour bouger, surtout dans un contexte de guerre. Et dans mes personnages de graines de pissenlit, mes graines, elles sont toujours ensemble. Et c'est beaucoup de choses. Beaucoup de spectateurs m'ont parlé de la solidarité des graines que je montre dans le film. Et dans le film, Alain n'est pas obligé, il y a cette solidarité inébranlable entre Ibrahima et Yacouba. Et moi, pendant tout le film, je me dis, mais Yacouba, il va le laisser tomber, en fait. Pourquoi il a eu son argent, il va partir. Non, il est là jusqu'au bout, comme un frère. Même, il y a des moments où on a l'impression que c'est le père et le fils. Et je me dis, cette crise politique et cette urgence de vie rend ces deux personnes solidaires. Or, ils ne se connaissaient pas au début du film. Et je trouvais ça absolument fort par rapport à l'histoire de Vivant aussi, et qui représente très, très bien. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup frappée, c'était l'histoire du dictionnaire que tu as déjà évoqué. C'est cette connaissance, cette fin de connaissance que ce petit garçon a. Et dans le film, périodiquement, il ouvre ce dictionnaire qu'il retrouve à la fin. Mais il l'ouvre quand même dans le film. Et il a il essaie de comprendre ce qu'il est en train de vivre. Et cette connaissance, cette fin de connaissance, elle est extrêmement primordiale, en fait. Et quand moi, je filme des limaces, je vais aller chercher des spécialistes de l'image pour les comprendre, parce que non, on ne peut pas les filmer. Cette connaissance, c'est-à-dire ouvrir, retourner le monde réel pour comprendre ce qui se passe derrière, est un geste important. Et j'étais extrêmement touchée que ce petit garçon fasse ce geste-là pendant tout le film.
Ça va, Nadja ?
Ben, merci.
Excuse-moi, ce n'était pas une question, c'était des remarques.
Merci. Non, mais c'était très juste parce que, justement, le personnage de Yacouba, il est décrit, Birima, il le décrit comme quelqu'un, comme un escroc. Amadou Gourouma, même dans des interviews, il le décrivait comme un escroc, etc. Puisqu'il fait des business, il paraît sans foi ni loi. Mais en effet, moi, en creux, ce qui n'est pas décrit, bah finalement, il abandonne jamais ce gamin, alors que s'il était vraiment ce qu'on décrit de lui, à ce moment-là, il l'abandonnerait. Et je me disais, ok, on dit qu'à chaque endroit où il est allé, ses business ont périclité, mais je me disais, en fait, peut-être il n'est pas assez cynique, du coup, ses business ont périclité. Peut-être c'est ça qui s'est passé.
Et moi, j'avais une question, est-ce que tu voulais qu'il l'abandonne à un moment? Est-ce que cette version scénario vous a un peu effleuré?
Non, parce que dans le roman, il ne s'abandonne pas. Il y a des moments où il se sépare un peu, mais finalement, il se retrouve toujours. Et je pensais que ça, c'était quand même très, très signifiant du personnage. Ça raconte tout de ce personnage. Et puis, moi, ça lui permettait, enfin, c'était bien plus intéressant aussi, ça permettait d'avoir un personnage bien plus complexe. Et Thomas, il a bien su, Thomas Njijol, il a vraiment su, justement, créer ces différents niveaux de lecture de Yacouba. Et leur relation, elle pouvait aussi être bien plus complexe. Donc c'était extrêmement important.
Mais là où il y a du surcroît de réel aussi dans votre film, non seulement par les enquêtes que vous avez menées, c'est par ces voix qu'on a entendues, qui sont absolument magnifiques. Alors Thomas Njijol, on le connaît, on connaît moins celui qui interprète Birima. C'est un jeune rappeur d'Abidjan qui s'appelle SK07, mais toutes ces voix qu'on entend d'enfants, on a l'impression que vous les avez vraiment enregistrées sur le vif avant de les animer. Alors je crois que c'est dans un studio à Abidjan, précisément, que vous avez enregistré ces voix et trouvé tous ces personnages. Alors, à quel point ce que vous avez enregistré a pu même influencer la manière dont vous les avez animés?
En fait, le son a été vraiment la base de tout le film, en fait, de toute l'image, de l'animation en tout cas. Parce que on avait travaillé avec Alma Productions et Luis Marquez, qu'on avait rencontré par Marguerite Aboué à Abidjan, et il nous avait fait rencontrer SK07, voilà, qui avait fait des essais incroyables, et c'est trouver un enfant ou un très très jeune adolescent de 11 ans qui peut interpréter ce personnage, ça paraît presque impossible, quoi. Et donc c'était fou, et je pense que son talent et sa détermination sur le plateau, ça a inspiré tout le monde. Et par ailleurs, en fait, tout le reste de l'équipe, des voix, ils ont, pour beaucoup, ont l'habitude de jouer ensemble. Et ça, du coup, ça crée une émulation qui, je pense, se ressent énormément. Et pour Tête Brûlée, je pense à Miss Adri, Fatih, qui est interprété par Salomé Compaoré. Voilà. Et toute cette équipe, même pour des voix très secondaires, on faisait beaucoup d'improvisation. Et moi, en animation, tout est extrêmement organisé. Et c'est vrai que pour moi, les voix, c'est l'endroit de liberté absolue où on doit amener la vie, quoi. Et on avait aussi enregistré avec la même équipe beaucoup de sons dans la région entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, qui ont été le socle de tout le montage son. Et ensuite, on a enregistré la musique qui a été composée par Thibaut Aguéman. On l'a enregistrée aussi dans le même studio à Abidjan. Et donc, en fait, et après, moi, j'ai monté toute la base du son et j'ai monté les voix. Et ce son-là a été le socle pour toute l'animation.
Merci Zaven Nadjar. Alan n'est pas obligé, et lui en salle depuis mercredi, il est accompagné de son adaptation en bande dessinée que vous signez avec votre co-scénariste Karine Vingzoura. C'est aux éditions Dupuis. Il y a une autre excellente bande dessinée que je vous recommande sur le même thème des enfants soldats au Congo cette fois. Elle s'appelle Le ciel dans la tête du trio d'Espagnols Antonio Altarriba, Sergio Garcia Sanchez et Lola Moral. C'est aux éditions De Noël Graphique. Ça avait d'ailleurs eu le Grand Prix de la Critique à CBD en 2024. Et puis pour en savoir plus sur le cinéma d'animation à la française, on vous recommande La Somme sur le sujet du spécialiste de la question Pascal Vimenet. Ça s'appelle précisément Cinéma d'animation, histoire d'une exception française et c'est publié par Warm. Côté festival, on vous recommande cette semaine la 7e édition de Best of Doc qui, comme chaque année, dans de plus en plus de salles en France, donne une seconde vie sur grand écran à 10 des meilleurs documentaires de l'an dernier, dont nous avons rencontré d'ailleurs nombre de réalisatrices et réalisateurs dans Plan Large. Il s'agit du 5e plan de La Jetée de Dominique Cabrera, Imago de Denis Oumar-Pizaev, L'Invasion de Sergei Losnitsa, Je n'avais que le néant, Shoah par Claude Lanzmann de Guillaume Ribot, My Stolen Planet de Farhanaz Sharifi, Pitchers Goes Bananas de Marie Lozier, Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepi Defarsi dont on parlait tout à l'heure, Queendom de Anya Galdanova, Soundtrack pour un coup d'état de Johan Grimont-Pré et Tardes des Soledad d'Albert Serra. Que du beau, que du bon. Et c'est jusqu'au 17 mars. Le syndicat des distributeurs indépendants fait encore plus fort, lui, avec la ressortie en salle ce mercredi de 25 films proposés par 25 des sociétés membres du syndicat, des films inspirants pour, je les cite, en cette semaine précédant le premier tour des élections municipales, sensibiliser le public et revenir sur le discours ambiant et déformant du monde politique sur les métiers du cinéma en général et le Centre national du cinéma en particulier. Il y a encore la semaine prochaine les monteurs et les monteuses qui s'affiche en festival avec 8 films suivis d'une discussion avec leurs monteuses et monteurs, donc en présence des cinéastes pour éclairer ce métier méconnu du cinéma. Les monteurs-monteuses s'affichent, c'est au cinéma Le Luminor près de l'Hôtel de Ville à Paris du 11 au 16 mars. Et puis enfin, sur les mêmes dates, à la Cinémathèque française et dans 11 salles partenaires, c'est la 13e édition du Festival de la Cinémathèque avec l'actrice Debra Winger et le cinéaste John Badham, celui de La Fièvre du samedi soir, en invité d'honneur. Et puis il y aura aussi Plan Large qui viendra y fêter sa 10e saison avec des amis de l'émission, comme la directrice de la photographie Caroline Champetier, les cinéastes Bertrand Mandico et Claire Simon et d'autres encore. Ce sera enregistré en public sur la mezzanine de la Cinémathèque française vendredi prochain à 18h. On vous attend donc nombreuses et nombreux pour fêter ça avec vous. Ceci annoncé, il est l'heure de grimper sur un bus à Impérial pour une croisière dans Manhattan avec un guide particulier.
Can you hear me in the back? They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. La 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 la, la 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 la. With, although I can't dismiss the memories of her kiss, I guess she's not for me. Written by a young, ambitious, desperate New Yorker named Gershwin, who lived three blocks off on the left. Thank you, Na. Welcome to New York City.
Bienvenue à New York. Malgré les apparences, cette reprise du standard de Gershwin, elle n'est pas par Bob Dylan. Elle est, avec sa voix de Kressel, par Timothy Levitch, dit Speed Levitch, pour la rapidité de son élocution. On est à la fin du siècle dernier, dans un Manhattan encore donc érigé des tours jumelles du World Trade Center. Et le dit Timothy Levitch, qui semble tout droit sorti de la scène beatnik du Greenwich Village des années 60, et bien les guides touristiques de son état à bord de bus impériales qui font des croisières dans la ville. On n'avait plus de nouvelles cinématographiques de Bennett Miller depuis son Foxcatcher en 2014 et voilà qu'on découvre la toute première œuvre du réalisateur de Truman Capote et du stratège, un documentaire de 1998, The Cruise, la croisière en français, qui suit pas à pas ce drôle de guide pour qui la dite croisière est un mode de vie, voire une quête métaphysique, mystique et même kabbalistique. Sandra Onana.
Ouais, alors la première étape, c'est qu'il faut prendre un homme qu'on a envie de regarder et d'écouter pendant 1h14, ou plus. Moi, j'aurais pu prendre une heure supplémentaire, personnellement. Deuxième étape, arpenter Manhattan avec lui. L'enjeu, c'est de faire l'expérience de la ville dans le regard de l'homme qui la raconte, donc ce fameux Timothy Levitch. Et donc, ça donne ce portrait documentaire génial, où on fait la rencontre d'un guide touristique, d'accord, mais surtout d'un marginal. Et c'est pas exactement pareil qu'un excentrique, un marginal. Ici, c'est un artiste raté, une vieille âme de 25 ans, habillée en tweed. On comprend qu'il a inventé cette manière d'être au monde extrêmement baroque, alors que ce monde, précisément, le maltraite ou le tient à l'écart. On peut le déduire à ses habits troués, au fait qu'il gagne $200 par semaine à New York. Ça permet pas de se loger, donc il squatte chez des copains. Il a eu des problèmes avec la justice dont on nous expliquera pas les raisons. C'est en tout cas quelqu'un qui prend très au sérieux sa mission d'observation de ce qui l'entoure. Et c'est en ça qu'on peut parler d'un poète ou d'un philosophe. Le carburant du film, c'est vraiment cette verve très grinçante, très drôle, son sens de l'absurde et de l'humour noir qui donne l'impression d'être au spectacle. Ça pourrait être un comédien de stand-up aussi. Et tout ce qu'il est et tout ce sur quoi il attire notre attention fait partie de la performance. Alors le dispositif du film, il est hyper simple, on pourrait croire amateur, c'est vraiment Bennett Miller tout seul qui tient sa petite caméra mini DV. La petite histoire, c'est qu'apparemment il avait tourné 80 heures de rush avec un opérateur dans un premier temps et tout fichu à la poubelle parce qu'il trouvait que le résultat manquait d'une proximité intime avec le personnage. Sachant que ce format de vidéo compact, portable en 98, c'était un peu la révolution. On sait que Laura Poitras, grande documentariste, avait raconté dans des interviews qu'elle avait vu le film à sa sortie à New York et qu'elle avait halluciné des possibilités qui s'ouvraient tout à coup avec ce format, à commencer par cette hypermobilité du film qui déambule avec son héros jour et nuit. Ce qui marque en premier, c'est quand même ce regard en contre-plongée sur la ville qui se découpe derrière lui. Alors, on est à Manhattan, d'accord, décor de cinéma qu'on est censé connaître par cœur, mais qui, là, donne vraiment cette impression de planète, on y revient, où rien n'est naturel. Il y a quand même un effet de défamiliarisation très fort. C'est comme un couloir de gratte-ciel à l'arrière-plan dans lequel on s'enfonce, et par-dessus, il y a une tête qui parle, et qui monologue le plus souvent, ou qui interpelle directement les gratte-ciels, qui érotise les façades d'immeubles. Il y a un rapport très drôle à la libido de la ville. Alors il y avait un risque, ça aurait été de le regarder comme un insecte, ce personnage, de l'épingler dans un cabinet de curiosité, d'autant qu'il a une démarche de canard, il a une voix de cartoon. Mais on n'est pas aux zoo, et c'est-à-dire que le regard porté sur lui ne le ridiculise pas. Déjà parce que le film se reçoit quand même aujourd'hui en partie comme une archive sur le travail précaire à la fin du siècle à New York. Il y a un enjeu à filmer les interactions avec les chauffeurs, à filmer l'organisation du travail des guides touristiques à qui on menace par exemple d'imposer l'uniforme. Et ça, c'est le symbole du conformisme en marche pour Timothy Levitch, ça le terrifie. À côté de ça, on a ce héros qui se met en scène à la première personne comme un archétype de juif new-yorkais névrosé, ce qui est très référencé culturellement dans le récit américain. C'est un personnage qu'on pourrait retrouver tel quel dans un film de Woody Allen, dans un roman de Philip Roth, au point qu'on se demande même s'il ne cultive pas cette parenté comme une auto-parodie. Et s'il devient bouleversant, en réalité, c'est que c'est, peut-être comme tous les clowns, un clown qui rit pour ne pas pleurer. Il y a un monologue, notamment, où il interpelle avec les tripes tous ceux qui l'ont blessé ou lésé dans sa vie. Et c'est un peu cette noirceur qui va résonner avec le reste de l'œuvre qu'on connaît de Bennett Miller, qui est un cinéaste rare, en effet, hyper discret depuis 12 ans. Le lien assez évident qu'on peut trouver entre ces longues fictions, notamment Capote, Foxcatcher et cet essai de jeunesse, c'est qu'il s'agit toujours des portraits d'hommes qui ont existé. Un hasard ou pas, c'est qu'au moins 3 héros sur 4 ont la particularité d'avoir une voix inhabituelle, un peu nasillarde dans sa filmographie, et sont peut-être concernés par un malaise dans la virilité, en tout cas un truc qui les rend hors normes. Dans The Cruise, ici, c'est le malaise du célibataire, en plus du malaise existentiel. On remarque tout de suite que ce terme paradisiaque de la croisière ne sert pas seulement à désigner le tour des attractions touristiques à New York, ça devient un concept philosophique, ça devient peut-être une manière de ne pas parler d'errance aussi, qui serait un peu notre condition universelle et qui nous ferait patienter avant la mort, si on l'entend. Par ailleurs, s'il existe la croisière dans l'imaginaire de Levitch, il existe son négatif, l'anti-croisière. Par exemple, les forces de l'ordre, toutes les instances de répression en fait, de l'individualité. Et ce serait aussi ça, je pense, le lien avec la filmographie de Bennett Miller, c'est-à-dire qu'il y a toujours une attention à l'outsider ou à la persévérance de l'individu dans la masse, à quel point le monde tolère que cette marginalité existe ou travaille à le faire entrer dans la conformité. C'est aussi le paradoxe de l'Amérique où les films de marginaux ont l'air de dialoguer avec cet article de leur constitution, le droit au bonheur. Et ce que propose Levitch, c'est tout simple, c'est de suivre le guide et de monter dans le bus. I was a fool to fall and get that way. I hoe alas and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.
Merci Sandra Onana, La Croisière de Bennett Miller. C'est à voir en salle depuis ce mercredi. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Mineta Diawara. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et Juliette Marcaillou et réalisée par Anne-Laure Chanel.